Tumult, le magazine de l'information et des musiques nouvelles de Radio PFM. Troisième Tumult de chaque mois, c'est le rendez-vous avec Sylvie Neff pour son poème provisoire, mais exceptionnellement remis à la semaine prochaine. Ce qui vous donne droit à une demi-heure de musique tumultueuse. Et puis dans 30 minutes, le journal de Tumult, nous recevrons Alain Pruvot, président de la section de la Ligue des droits de l'homme d'Hénin Beaumont et délégué régional, et Daniel Pruvot, présidente départementale et présidente de la section d'Arras de la LDH. Nous parlerons avec eux de la situation au Moyen-Orient, en Palestine et à Gaza en particulier. Nous écouterons aussi Hélène Flautre, députée européenne des Verts, interviewée dimanche dernier. C'est le contenu de ce tumulte numéro 990. Jean au micro, salut.
Ici à Sfax, ici à Sfax. Hierasus, Hierasus. Demain Paris, demain Paris. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun amant ne livre la même humeur. À nous des lignes, à nous des lignes. Hierasus, Hierasus. Aucun amant n'affiche la même heure. Aucun cadran ne livre la même humeur. À nous New York. Hierasus, Hierasus. Demain Paris, demain Paris. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun amant ne livre la même humeur. À l'intérieur coule la Garonne, coule la Garonne. Pas un amant n'affiche la même heure. Aucun cadran ne livre la même humeur. À New Delhi. Hierasus, Hierasus. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun cadran n'affiche la même heure. Aucun amant ne livre la même heure.
Hierasus, c'était Bachung, extrait de son dernier album, Le Pétrole, paru en 2008. Jimi Hendrix, enregistré en concert en 1970.
you're going with that gun in your hand. I'm going down to shoot my old lady, call mess around with another man. I'm going down to shoot my old lady now. You know I'm gonna mess around with another man, and I ain't too cool. Hey Joe, hey Joe, shot your woman down.
Jimi Hendrix, suivi du Sicilien Roy Paci et de son groupe Aretusca.
Thank you. cano y cando, cando palmadano y cando, cando será gozano, cando licha largo, gota brecha, so que bacalao y cando, cando agadares y cando, cando avasenes y cando, cando austanes y jalanchine, gasa del lebato, ale figurinia y percho, me bello fera pata, boy. Mi fatto sempre vecina, reggio, reggio vecina, fai tornare sempre una modella di cantare dura e canto, a giapponesi e canto, a lentinesi e canto, a gigi nano senti sta ciubito come spacca via via. Me peglio per la volta e poi mi faccio sempre Messina, Reggio, Reggio Messina. Per tornare sempre una motella per cantare. Allora io canto siciliano, io canto palamadano, io canto siracusano, se ti sticcio mi sto tromuno, se sto pure.
Some people stand like trees without a word. And what that means is that some people don't talk.
Violente femmes.
Oh, please pardon me, mister. No, I just didn't hear you that first time that you said that. Father, you know, I just didn't hear you that first time that you said that. No, but no, you repeat it. I'm gonna do what I can, do what I can, yeah, do what I can, do what I can, but no more. It's of utmost importance, we're dealing with volatile substance. It's of utmost importance, we're dealing with volatile substance. It's of utmost importance, we're dealing with volatile substance. It's of utmost importance, we're dealing with volatile substance. I've had so much on my mind. I was so glad when I died.
Oh, listen to me, baby. Can you keep a secret for me? And make sure no one finds out, 'cause then the lights will go out and I will find you out and I will cut you up. Ask me why, because I said I'm gonna do what I can, do what I can, do 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 what I can, I do what I can, do what I can, do 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 what I can, I do what I can, do what I can, do 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 what I can, I do what I can, do what I can, do 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 what I can. I'll have none of that. You know nothing, you never tell someone. Don't you know nothing, you never tell someone. Don't you know nothing, you never tell someone. Don't you know nothing, you never gonna tell someone. What are you gonna do? You gonna turn, gonna turn rat thing. What do you wanna do? You wanna see, wanna see what it's like to sink. Sink down, sink down, sink down. Down, down to the bottom of the river, sink down, sink, sink down, 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 down to the bottom of the river, sink down, sink, sink down, 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 down to the bottom of the river, sink down, sink, sink down, 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 down to the bottom of the river. Don't you know no one? You never tell on someone. Don't you know no one? You never tell on someone. Don't you know no one? Never tell us someone. Don't you know no one? You ain't never gonna tell us someone. I tell you what's like. I tell you what's like.
C'était le groupe Violente Femme, magazine Tumulte sur Radio PFM, libre et sans pub. Dans 7 minutes, le journal de Tumulte, nous recevrons les représentants de la Ligue des Droits de l'Homme. Le groupe Divo et sa version de Satisfaction.
I try to, I try. I can't get no.
Fire, et juste après, ce sera le journal de tumulte.
Thank you.
journal de tumulte. Nous recevons Alain Pruvot et Daniel Pruvot. Alain Pruvot est président de la Ligue des droits de l'homme d'Hénin Beaumont et délégué régional. Daniel Pruvot est présidente départementale et présidente de la section d'Arras, toujours de la Ligue des droits de l'homme. Nous allons parler avec eux de la situation au Moyen-Orient, en Palestine et à Gaza en particulier. Nous écouterons aussi Hélène Flautre, députée européenne des Verts, interviewée dimanche dernier. Alors Alain et Daniel Pruvot, bonsoir.
Bonsoir. Bonsoir.
Ce jour, mardi 20 janvier, c'est le jour de l'arrivée à la présidence des États-Unis de Barack Obama. Mm-hmm. Et ce jour, l'armée israélienne s'est retirée de Gaza. Alors avant d'écouter Hélène Flautre, une réaction un peu sur cette situation.
Oui, alors Alain donc l'arrivée de Barack Obama, bon évidemment, nous nous en réjouissons en ce sens que ça ne pouvait pas être pire qu'avec l'équipe de Bush. Donc c'est aussi pour nous militants des droits de l'homme tout un symbole de voir arriver un homme qui est un noir, et donc de ce point de vue-là, c'est une mini révolution. N'oublions pas quand même qu'il y avait déjà aussi des personnes de couleur qui faisaient partie de l'équipe précédente, et je pense notamment à Madame Rice, Condoleezza Rice, qui n'a pas été, je crois, un modèle en matière de défense des droits de l'homme. Donc il faut se réjouir effectivement de l'arrivée de Barack Obama, mais peut-être non plus ne pas entretenir trop d'illusions. Cela dit, par rapport à la situation à Gaza, effectivement, là aussi, il faut se réjouir du retrait, mais en restant extrêmement prudent. Bon, c'est un premier objectif qui est atteint, puisque les manifestations auxquelles nous avions appelé demandaient la cessation des bombardements et le retrait des troupes israéliennes. C'est un premier point, mais pour autant, tout n'est pas acquis. Et je voudrais dire que nous sommes absolument scandalisés par le fait que cette guerre qui s'est déroulée pendant maintenant pratiquement 3 semaines, cette guerre donc a fait un certain nombre de victimes civiles et dans des conditions absolument révoltantes, en particulier l'emploi de bombes au phosphore, le fait que les bâtiments des Nations Unies aient été directement ciblés, qu'il y ait eu des écoles aussi, il y a des enfants qui sont morts. Et donc nous sommes révoltés, et ce soir d'ailleurs je peux faire état d'un communiqué qui vient d'être publié sur cette situation.
De la Ligue des droits de l'homme ?
Alors notamment de la Ligue des droits de l'homme, en fait c'est important parce que ça concerne en fait Amnesty International France, la plateforme des ONG françaises pour la Palestine, la Fédération internationale des Ligues des droits de l'homme, et donc son affiliée française, la Ligue, dont nous sommes nous-mêmes membres, la Ligue française des droits de l'homme. Toutes ces organisations appellent la France à demander la mise en place d'une commission internationale d'enquête indépendante sur les violations des droits de l'homme dans le cadre de la guerre à laquelle on vient d'assister.
Alors on peut dire que ça va dans le sens de ce qu'a déclaré le secrétaire général de l'ONU, qui était à Gaza ce mardi. Il a dit qu'il avait été chaviré par ce qu'il avait vu, et il comptait demander des comptes à Israël.
Tout à fait. Et d'ailleurs, je n'en suis pas étonné, parce que il se trouve, je le faisais constater d'ailleurs il y a peu à nos militants, que j'avais utilisé le même terme, et sans qu'on se soit concerté, le même terme pour dire que c'était intolérable ce qui se passait là-bas, et c'est le terme qu'il avait utilisé lui-même par rapport à tous ces massacres.
Est-ce que vous pensiez que Israël allait se retirer ? Bon, en même temps, ils se retirent, mais ils peuvent revenir. Ils ont montré qu'ils pouvaient venir très facilement dans Gaza et faire un certain nombre de dégâts. Donc la population est quand même sous le coup d'une certaine terreur, d'une certaine manière. Est-ce que vous êtes surpris par le fait qu'Israël ait retiré ses troupes
Non, pas vraiment.
Je ne vais pas dire si tôt, parce que 3 semaines.
Pas vraiment, pour deux raisons. Enfin, la première, c'est peut-être lié justement à l'arrivée, à l'accession de Barack Obama au pouvoir. On pouvait penser qu'effectivement, à ce moment-là, il y aurait une pause, au moins. La deuxième chose, c'est qu'il y a quand même une mobilisation qui s'est développée en France, mais pas seulement, en Europe, dans différents pays. Et cette mobilisation commençait à prendre de l'ampleur. Peut-être aussi certains responsables israéliens se sont-ils rendus compte que la continuation de cette guerre dans les conditions où il l'a menée, de surcroît, risquait d'être très dommageable à l'image de marque de leur pays et donc à leur propre cause.
En tout cas, Israël restant à Gaza, l'étape suivante ne pouvait être que une intervention maison par maison. Non, on imagine une situation encore beaucoup plus grave pour les civils.
Oui, mais alors justement, le problème, c'est que Israël met en avant la nécessité de lutter contre le terrorisme, donc concrètement contre le Hamas, qui a dissimulé des armes, stocké des armes ou posté des tireurs, etc., dans les écoles, les bâtiments de l'ONU, les hôpitaux. Ce qui a d'ailleurs été démenti à plusieurs reprises par notamment des médecins qui en ont fait état. Reste que même si c'était vrai, qu'est-ce qui autorise, qu'est-ce qui légitime, à, même face au terrorisme, à utiliser de telles méthodes? En particulier, l'emploi des bombes au phosphore est absolument interdit par les conventions internationales. Et donc, nous avons immédiatement protesté contre cela, je le disais tout à l'heure, au même titre qu'Amnesty International et d'autres associations de défense des droits de l'homme. C'est absolument révoltant. Quoi qu'on pense par ailleurs du Hamas, de son programme de destruction de l'État d'Israël, quoi que l'on pense aussi, donc des méthodes utilisées, rien à nos yeux ne justifie qu'on utilise des armes qu'on pourrait appeler là de destruction massive, puisque la formule a fait florès, à l'encontre de populations civiles. D'autant que ce n'est pas la première fois que les Palestiniens sont ainsi victimes de ce genre de choses. Il faut quand même rappeler aussi les massacres épouvantables qui avaient eu lieu dans les camps de Sabra et de Shatila, alors que l'armée israélienne n'était pas intervenue. C'était en fait des phalanges qui étaient intervenues. Mais l'armée était juste là et avait même envoyé des fusées éclairantes, ce qui avait quand même peut-être un peu facilité le travail des phalangistes.
Alors, Alain et Daniel Prévost, on va revenir sur toutes ces questions de fond dans un moment. On va écouter Hélène Flautre, qui est députée européenne des Verts, et vous savez qu'elle était à Gaza il y a 9 jours.
Tout à fait, d'ailleurs on l'avait rencontrée, et d'ailleurs je lui avais dit qu'il fallait beaucoup de courage pour s'y rendre dans ces conditions-là. Et bon, elle nous avait dit avec un sourire, bon, j'espère qu'on se reverra quand même prochainement. Et quand on l'a vu revenir, nous on a aussi été très soulagés.
Alors, on l'a interviewé il y a deux jours. Nous l'avons interrogé principalement sur la responsabilité de l'Union européenne dans l'offensive israélienne. On l'écoute.
Il a beaucoup été question de la responsabilité de l'Union européenne dans le lancement de l'offensive de l'armée israélienne sur Gaza, notamment avec le rehaussement des relations entre l'Union européenne et puis Israël, justement 20 jours avant le déclenchement de cette offensive.
Oui, 20 jours avant, et 20 jours avant, il est clair, même presque un an avant déjà, que la possibilité, l'hypothèse en tout cas, on savait que cette hypothèse était examinée par les autorités israéliennes, celle d'une intrusion militaire massive dans Gaza. Et début décembre, il est clair que dans toutes les ambassades, dans les journaux israéliens aussi, cette possibilité était largement discutée. Alors dans ce contexte-là, le 8 décembre, le Conseil, à l'unanimité, sous présidence française, réaffirme dans ses conclusions sa détermination à adopter un statut privilégié pour Israël et à rehausser les relations, c'est-à-dire à avoir des relations à un niveau politique plus élevé et avec des coopérations plus intenses, plus approfondies et plus fréquentes. Tout observateur peut se dire qu'une telle décision le 8 décembre, à l'unanimité du Conseil, a été interprété par les autorités israéliennes comme une espèce de blanc-seing a priori donné par l'Union européenne à ce qui était très largement déjà en préparation et en débat, c'est-à-dire cette offensive militaire. Il y a donc une responsabilité extrêmement importante de l'Union européenne qui décidément dans cette région et depuis de très nombreuses années n'a pas réussi, n'a jamais réussi jusqu'à ce jour à se constituer comme un acteur promoteur de la paix et n'a engrangé aucun résultat. On peut même dire, et certains d'ailleurs le disent comme ça, que finalement l'aide très importante de l'Union européenne à l'autorité palestinienne, et depuis de fort nombreuses années, est une forme de financement de l'occupation militaire israélienne, puisque l'Union européenne prend en charge en quelque sorte les dégâts humanitaires, économiques, qui sont le fait de l'occupation israélienne sur ces territoires.
Alors vous étiez à Gaza il y a une semaine, vous aviez réussi avec d'autres députés européens à pénétrer dans la bande de Gaza. Comment agissez-vous aujourd'hui en tant que députée européenne des Verts? Comment agissez-vous aussi en tant que présidente de la sous-commission des droits de l'homme? Comment agissez-vous au sein de l'Europe?
Alors quand nous sommes rentrés de Gaza, nous avons organisé tous les collègues de la délégation une conférence de presse dans laquelle nous avions un appel unanime, c'était celui de la mobilisation de la communauté internationale pour la protection de la population civile palestinienne. Et puis nous sommes également tous intervenus dans le débat qui s'est tenu en session plénière à Strasbourg donc la semaine dernière. Notre appel était clair, l'Union européenne a le devoir et la responsabilité de tout faire pour protéger cette population civile et nous avons interpellé la Commission et le Conseil sur les moyens qu'ils utilisaient pour ce faire. Il est certain qu'aujourd'hui, et parce que cette décision se trouve dans les mains d'un Conseil qui décide à l'unanimité sur ce sujet, tous les moyens n'ont pas été utilisés. On pense bien sûr au rehaussement, on vient d'en parler, mais également à l'accord qui d'ores et déjà nous lie à Israël. Cet accord avec Israël est fondé en son article 2 sur le respect des droits de l'homme, du droit et du droit international. Et on est en droit d'exiger du Conseil et de la Commission qu'ils activent cette clause essentielle de l'accord qui nous lie à Israël pour faire pression sur cet État afin que cesse cette offensive militaire qui est indiscriminée, qui est disproportionnée et qui est donc contraire au droit international.
Alors le Parlement européen a été saisi de cette question et a adopté une résolution. Est-ce qu'elle va dans le sens de critiquer l'offensive israélienne ?
Elle va dans le sens de la critique de l'offensive israélienne. Elle qualifie cette offensive de punition collective. Ça, je crois que c'est important. Et puis, elle met à plat les bases ou les constituants d'une paix durable. Ça passe évidemment par le retrait total de l'armée israélienne des territoires palestiniens et de la bande de Gaza en particulier. Ça passe également par la fin du blocus de Gaza. On oublie souvent que depuis maintenant 18 mois, la bande de Gaza était totalement asphyxiée. Ni bien, d'aucune manière, ne pouvait entrer, sauf au compte-gouttes et sous la maîtrise totale des autorités israéliennes. Donc il n'est pas possible de penser à la paix demain sans penser à un territoire palestinien qui est en situation de se développer, y compris du point de vue, bien entendu, économique et social, ce qui est une condition absolument pas remplie aujourd'hui. Elle appelle, bien entendu, cette résolution à un cessez-le-feu immédiat et durable, et également au déploiement d'une force internationale. Et ça, je crois que c'est important parce que ça fait partie des conditions d'un processus pour la paix. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, les relations entre Israël et les territoires palestiniens sont entièrement dominées et à la merci, en quelque sorte, des actes souvent contraires aux droits qui sont exercés par les autorités israéliennes. Et qu'il faut demain penser des relations entre ces deux États qui soient dans un premier temps en tout cas régulées, médiées, organisées par la communauté internationale à travers le déploiement d'une force internationale dans laquelle d'ailleurs les pays arabes et musulmans devraient être constitués une composante également importante.
Alors justement, est-ce que vous arrivez à imaginer aujourd'hui une porte de sortie qui assurerait d'abord les droits nationaux du peuple palestinien et aussi une entente durable avec Israël ?
Il y a quand même une condition qui pour l'instant n'est pas remplie, hein, y compris pas d'ailleurs dans la résolution du Parlement européen, c'est qu'il n'est pas possible que Israël puisse, l'État d'Israël et ses autorités puissent se prévaloir d'une impunité par avance garantie, quels que soient ses actes. Je crois qu'aujourd'hui, il faut marquer un coup d'arrêt à ça. Alors, on sait que des associations de défense des droits de l'homme demandent la saisine du Conseil de sécurité pour que la Cour pénale internationale puisse enquêter sur la présomption de crimes de guerre. Il y a moult manières, je crois, aujourd'hui, d'indiquer à Israël que les bornes sont dépassées et que ce dépassement est totalement inadmissible. Et je crois que cela doit être dit. On ne peut pas penser la paix si l'un des partenaires nécessaires de cette paix considère que tous les actes qu'il pose, quelles que soient leurs conséquences, sont a priori couverts par la communauté internationale. Ça me paraît extrêmement important. La deuxième chose, on en a déjà un peu parlé, c'est il faut penser demain la possibilité pour la Palestine de se développer de tous les points de vue économiques, sociaux, politiques et culturels. Et sur la question politique, il y a aujourd'hui la nécessité que le peuple palestinien retrouve une expression et des gouvernants politiques qui permettent de garantir l'unité de la population palestinienne. Tout a été fait aujourd'hui par Israël, mais aussi par la communauté internationale, pour ne pas arriver à ce résultat. Quand je reviens un peu en arrière et que j'imagine les décisions qui ont été prises en janvier 2006, quand le Hamas est sorti très largement vainqueur d'élections considérées comme absolument démocratiques et sans bavure, le résultat de ces élections, c'est-à-dire le Hamas au pouvoir, a été immédiatement non reconnu et délégitimé par la communauté internationale. C'était une erreur grossière manifeste que certains responsables, notamment la Commission européenne, reconnaissent aujourd'hui sans embâche. Donc la question de la représentation politique des Palestiniens, c'est-à-dire le fait d'avoir des leaders qui soient capables de négocier la paix, parce qu'on sait que la négociation de la paix est des deux côtés, cette question est absolument correcte également pour les Israéliens. C'est-à-dire il faut aujourd'hui qu'il y ait des forces politiques qui soient réellement capables de motiver, d'argumenter et d'entraîner leur population dans un processus de paix. Ça manque des deux côtés de l'échiquier aujourd'hui.
Alors, est-ce que vous allez retourner à Gaza ?
Alors, oui, des parlementaires et peut-être moi retournerons effectivement à Gaza. Très certainement, le groupe, en fait, d'où est issue cette délégation qui a réussi à rentrer dans la bande de Gaza, donc le groupe Moyen-Orient du Parlement européen prépare une nouvelle délégation. Il y a beaucoup de choses. Nous sommes entrés, on a en quelque sorte brisé le blackout et le blocus de Gaza, mais nous n'avons pas documenté la situation. Je crois que des parlementaires vont devoir retourner là-bas, des observateurs, des médecins, des scientifiques. Il faut aujourd'hui une enquête internationale, crédible, pour comprendre ce qui se passe, quelles armes ont été lancées, comment les opérations se sont déroulées, quels sont les dégâts aujourd'hui dans la bande de Gaza, qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui promouvoir comme aide dans le cadre d'un processus de paix. Donc une délégation est prévue. Moi-même, dans la sous-commission des droits de l'homme, j'organise un débat sur la situation ou les violations, plus précisément, du droit humanitaire et du droit international à Gaza, avec des représentants de l'Agence des Nations Unies, de l'UNRWA, qui est sur place et qui fait un travail absolument incroyable, et puis également avec un représentant du Centre palestinien des droits de l'homme, qui est Gazaoui, et qui donc pourra commencer ce travail nécessaire de documentation des violations des droits de toute nature qui ont eu lieu sur ce territoire.
Voilà, c'était donc Hélène Flautre, députée européenne, interviewée il y a deux jours. Alors, magazine Tumulte sur Radio PFM, je vous rappelle, nous recevons Alain et Daniel Pruvot, représentants de la Ligue des droits de l'homme. Alors, on va revenir sur toutes les questions de fond. Alors, on parle de conflit israélo-palestinien depuis conflit qui dure depuis 60 ans. Le simple terme utilisé conflit semble dire qu'en fait il y a deux parties belligérantes et qu'il y a une certaine symétrie. Alors je sais que la Ligue des droits de l'homme évidemment s'est positionnée dans ce conflit avec le critère, je suppose, qui est le critère des droits de l'homme. Comment vous avez choisi justement ce positionnement?
Ça n'est pas un positionnement nouveau. Je dirais que la Ligue des droits de l'homme a toujours eu, depuis le début, la même attitude. C'est-à-dire que, en fait, ce conflit, il dure depuis très longtemps. Il a exactement mon âge, d'ailleurs, puisque c'est en février 47 que le gouvernement britannique avait remis son mandat, qu'il détenait depuis 1920 sur la Palestine aux Nations Unies. Et je crois que c'est à ce moment-là qu'il y a eu une résolution, la fameuse résolution 181, qui prévoyait le partage de la Palestine en un État juif et un État arabe. Donc nous avons toujours considéré, et je me souviens notamment d'une intervention de notre président d'honneur, notre ancien président national Michel Tubiana, qui était venu dans le Pas-de-Calais et qui avait bien insisté sur le fait que ça n'était pas un conflit religieux, que c'était un conflit politique et qu'en fait la question était une question aussi de terre, puisqu'il y a une même terre pour deux peuples, chacun pouvant faire valoir une certaine légitimité, en ce sens que les Palestiniens occupaient effectivement le territoire. Et puis bon, il y a eu la Shoah, et à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y a notamment sous l'impulsion des mouvements sionistes, il y a eu la volonté d'implanter une population qui elle-même avait subi ces choses épouvantables, donc la déportation, le massacre dans les camps de concentration nazis. Donc l'opinion internationale était d'accord finalement sur cette base-là, mais nous avons toujours considéré, parce que très vite, qu'est-ce qu'on a vu, qu'est-ce qui s'est passé? Dès le début de la création de l'État d'Israël, il y a eu des tensions très très vives. Il y a eu des morts, il y a eu une crispation en fait de part et d'autre, il y a eu une radicalisation, et à part quelques brèves périodes d'apaisement ou de calme, régulièrement, on peut reprendre toute la chronologie année par année, on s'aperçoit que ça n'a pratiquement pas cessé effectivement depuis plus de 60 ans. Donc nous disons maintenant ça n'a que trop duré. Et face à la politique qu'on vient de voir mise en œuvre, qui est une politique de guerre totale, qui utilise tous les moyens, à l'encontre même de populations civiles, face à cela, il n'y a pas 36 solutions, il y a une alternative, c'est de faire la paix. Alors on va dire, oui, mais ça c'est l'utopie. De l'utopie peut-être présentée comme ça, de manière aussi brutale, mais un président noir aux États-Unis, il n'y a pas si longtemps, ça relevait encore de l'utopie. Aujourd'hui, c'est la réalité. On devrait pouvoir y arriver. Il y a eu déjà à plusieurs reprises des plans de paix qui étaient sur le point de marcher. Il faut quand même rappeler aussi cet épisode. Il y avait eu les accords de Camp David, il y avait aussi d'Oslo. Quand on a vu Yasser Arafat, Shimon Peres et Yitzhak Rabin qui se serraient la main, bon, c'était quand même un grand moment et on s'était dit que là, on était sur le point d'y arriver. Malheureusement, bon, vous savez que Rabin a été assassiné, il y a toujours des extrémistes, il y a des gens qui passent leur temps, enfin nous c'est ce que nous disons volontiers de manière familière, on passe notre temps à essayer de mettre de l'huile dans les rouages pour que ça puisse fonctionner valablement, et puis il y a des gens qui mettent de l'huile sur le feu et qui font en sorte de faire capoter les choses. Mais il existe déjà plusieurs plans de paix à partir desquels on pourrait retravailler aujourd'hui.
Daniel Prévost, un complément d'intervention.
Oui, justement, le président Michel Tubiana, quand il était venu, avait insisté sur un aspect qui lui paraissait essentiel et qui est aussi essentiel à nos yeux, c'est-à-dire en fait que toute négociation ne peut pas être autrement que sur une base d'égalité des droits. C'est-à-dire que pour nous, il n'y a pas de hiérarchie des droits, il n'y a pas un État qui aurait plus de droits qu'un autre, sous prétexte par exemple qu'il y a eu la Shoah et qu'ils ont été victimes d'atrocités, atrocités qu'on dénonce bien sûr. Mais pour nous, c'est la base aussi de négociations, sinon je crois qu'on ne pourra jamais progresser.
Donc la question clé pour vous, c'est la reconnaissance du droit national, en fait
Oui, je dirais de façon générale le respect des droits du peuple palestinien. C'est d'ailleurs, c'était un des mots d'ordre que nous avions mis en avant pour l'appel à manifester. Bien entendu, d'abord arrêter les hostilités, faire en sorte qu'on ne massacre plus la population civile, qu'on ouvre des couloirs humanitaires, qu'on vienne aussi mettre en place une force d'interposition, et puis surtout qu'on en vienne à prendre des mesures pour garantir durablement les droits du peuple palestinien.
Alors j'en reviens à cette histoire de symétrie, parce qu'on voit bien dans les confrontations d'idées, qui sont aussi malheureusement des confrontations d'armes sur le terrain, quand on voit les confrontations d'idées entre les partisans d'Israël, les partisans du peuple palestinien, on revoit un peu cette question de symétrie. On dit les Israéliens reconnaissent qu'il doit y avoir un État palestinien à côté d'Israël, mais disent oui, mais pour l'instant les Palestiniens, avec les organisations qui les structurent, ne reconnaissent pas l'existence d'Israël et mettent en danger la sécurité du peuple d'Israël. Et donc on est contraint à... l'argument clé, c'est qu'on a entendu sans arrêt, c'est quel est l'État au monde qui tolérerait de recevoir des roquettes sur son territoire?
Oui, non, mais il faut quand même bien voir une chose. Bon, tout le monde connaît la fameuse formule de Brecht disant que si le peuple n'a pas bien voté, il faut dissoudre le peuple. Bon, les Palestiniens, j'entendais ça aux informations ce midi, disaient que ce qu'on leur avait infligé, c'était en quelque sorte une punition. Punition d'avoir mal voté en faveur du Hamas, etc. Bon, je le disais tout à l'heure, il n'est pas question de reprendre à notre compte les positions du Hamas. Il faut, cela dit... sortir aussi peut-être un peu de la caricature et ne pas oublier que s'il est si populaire, c'est parce qu'il a aussi créé une infrastructure d'aide sociale qui rencontre là-bas un certain écho. Et puis il faut quand même pas oublier non plus que tout a été fait, y compris de la part donc des Israéliens, pour affaiblir Yasser Arafat et le Fatah. Et donc après, on se plaint de ne plus trouver en face de soi qu'un interlocuteur qui est assimilé à un terroriste, alors qu'on a tout fait préalablement pour affaiblir celui qui, et il l'avait montré, était prêt à faire des pas décisifs en faveur de la paix. Donc c'est un petit peu commode, on commence par faire ça, et après, une fois qu'on a mis en place, on a laissé se mettre en place les, entre guillemets, terroristes, on est légitimé, en quelque sorte, à intervenir comme on le fait. La manœuvre est quand même un peu grosse.
On pourrait dire que d'une certaine manière, Israël a choisi son ennemi, son ennemi préféré, en disant c'est le Hamas qu'il a besoin d'avoir en face de lui.
Bon, je n'irai peut-être pas jusque-là, mais enfin, il faut quand même constater que, au fond, c'est souvent ce qui est mis en avant du point de vue de l'argumentation, c'est ce qui est légitime. On a en face de soi un terroriste, donc ce à quoi nous répondons. Une guerre ne se gagne de toute façon pas en utilisant les armes de son adversaire. Donc moi, je considère aussi que, humainement parlant, moralement parlant, d'une manière éthique, on va dire, celui qui se comporte comme son adversaire et qui en vient à pratiquer, et on l'a vu par exemple en France au moment de la guerre d'Algérie, quand on en vient à pratiquer la torture, des choses absolument abominables, on perd son âme, on se discrédite, et finalement, au bout du compte, on perd la partie. Je ne suis pas sûr du tout qu'en ayant fait ce que Israël vient de faire, elle ait contribué à s'attirer la sympathie et la compréhension des peuples du monde. Et c'est grave pour la sécurité d'Israël, justement, parce que cette politique-là, loin de garantir la paix durablement, comme on l'a dit, laisse craindre, au contraire, qu'il y ait des retours de bâton. Bon, et là, d'ailleurs, nous nous sommes portés aussitôt comme pompiers, entre guillemets, c'est-à-dire quand on a vu qu'il y avait certaines synagogues, par exemple, qui étaient taguées, quand on a vu des manifestations d'antisémitisme, nous qui avions appelé à manifester pour défendre le peuple palestinien, nous avons dit aussitôt, halte là, pas question de tolérer que le conflit soit importé en France. C'est aussi notre responsabilité en tant que membre de la Ligue des droits de l'homme, comme c'est notre responsabilité de dire que nous condamnons également, bien entendu, les tirs de roquettes sur les populations civiles israéliennes.
On va revenir sur cette question de l'importation ou pas du conflit israélo-palestinien en France. On reviendra sur cette question un peu plus tard, mais j'ai envie de vous demander un peu
Quels étaient, pour mesurer les effets de ce qui s'est passé, quels étaient en fait les buts de guerre d'Israël? On a du mal en fait à les cerner, non?
Bon, là, on entre un petit peu, là, on sort un peu de notre mandat de responsable de la Ligue des droits de l'homme pour se lancer dans la politique fiction des recherches d'hypothèses. Bon, en tant que citoyen, effectivement, on lit la presse, on réfléchit de son côté, on se pose des questions. Bon, qu'est-ce qui était... On peut penser que, au nom de la lutte contre le terrorisme, finalement, on a effectivement cherché à infliger effectivement une sorte de entre guillemets correction au peuple palestinien, peut-être aussi on a commencé par détruire un certain nombre d'infrastructures. Qu'est-ce qu'on recherche au fond que à décourager ces gens, à faire en sorte qu'il y ait une sorte de nouvelle diaspora à l'envers, pourrait-on dire? Est-ce que c'est ça qui est recherché? On peut franchement s'interroger. Quand on voit justement les tirs massifs, la destruction quasi systématique des infrastructures en Palestine.
Daniel Privot.
Oui, moi, ce qui m'interroge aussi, c'est que finalement, l'attitude d'Israël vis-à-vis de la Palestine risque de renforcer le Hamas au niveau de la Palestine. Parce qu'à chaque fois qu'on victimise, on va dire, quelqu'un, eh ben, on le rend un peu plus fort. On l'a vu en France, sur notre territoire, donc avec le Front National, si on le diabolise, finalement, les personnes qui sont ses tenants se sentent victimes et ne font que renforcer leur soutien à cette personne. Et donc j'ai un peu peur aussi qu'au niveau de la Palestine, par rapport au Hamas, on ait ce type de réaction. Et donc actuellement, c'est vrai qu'Israël a retiré ses armées, enfin retire ses armées, mais donc s'il y a de nouveau des roquettes, ça sera la Palestine qui sera responsable vis-à-vis d'Israël. Et donc on peut avoir des craintes.
Je reviens sur le positionnement de la Ligue des droits de l'homme sur ces questions. Est-ce que c'est quelque chose qui a fait débat dans la Ligue des droits de l'homme ou qui a une prise de position difficile? Ou est-ce que finalement la Ligue des droits de l'homme, c'est un positionnement ancien et qui est totalement partagé en son sein?
Non, je le disais tout à l'heure, c'est un positionnement qui est ancien. Bon, cela dit, régulièrement quand même, ça fait débat. Moi-même, je siège au comité central, j'assiste à des discussions, bon, mais les choses se passent de manière très courtoise. Bon, simplement, il y a des sensibilités effectivement différentes et il peut apparaître quelquefois. Enfin, vous savez, on est vite catalogué ou étiqueté comme soutenant l'un ou l'autre camp. Et c'est un petit peu ce qui nous arrive. Quelquefois, certains nous disent qu'on épouse complètement la cause palestinienne. Hein. Il y en a qui ont reproché que dans la manifestation, il y a eu comme slogan, alors qu'on brandissait des banderoles Ligue des droits de l'homme, il y a eu des slogans « Nous sommes tous des Palestiniens ». Bon, donc on a déduit que la Ligue ne voulait voir et ne soutenait que les Palestiniens. Non, nous avons dit il y a une situation d'urgence là. Ceux qui sont pour le moment les victimes, d'une manière massive, ce sont les Palestiniens et ils ont des droits qu'on ne respecte pas de toute façon. Donc c'est sur ce terrain-là qu'on s'est placé. Pour autant, on dit aussi que les Israéliens, le peuple israélien a droit aussi de vivre, d'avoir des garanties. Mais c'est pas en utilisant les méthodes qui viennent d'être utilisées que ça va réussir.
Autre question qui est délicate, bon, c'est et qui a quand même été une des marques du conflit qui vient de se dérouler, qui n'est pas terminé bien sûr, c'est, semble-t-il, le consensus existant en Israël sur l'offensive israélienne. Et il y a un autre aspect que je vais relier, mais je ne sais pas s'il faut les relier comme cause et effet, c'est la position des communautés juives dans les différents autres pays qui a semblé être quasiment consensuel derrière l'État d'Israël. Bon, on sait bien qu'il y a aussi des groupements, par exemple, qu'on a vu dans les manifestations pour la défense de la Palestine, hein, l'Union des Juifs pour la paix. Mais ces phénomènes paraissent plus minoritaires. Alors, est-ce que c'est simplement un effet des médias ou est-ce que ça correspond à une réalité? Et est-ce que justement cette défense des Palestiniens critiqué comme étant de l'antisionisme qui devient l'antisémitisme. Est-ce que ça a joué, en fait, dans ces dernières semaines?
Bon, je crois que c'est effectivement, il y a parfois au niveau médiatique une tendance à la simplification. Il y a aussi dans l'opinion publique parfois des crispations identitaires, on va dire. Bon, nous, on n'est pas là du tout pour encourager ça. On dit qu'il y a de vrais problèmes, il faut les mettre sur la table. Bon, c'est vrai que ceux qui en Israël ont adopté apparemment une position de compréhension à l'égard des Palestiniens apparaissent effectivement comme minoritaires. Mais nous disons que d'abord on n'en parle pas suffisamment. Or, il faudrait les aider, ces gens-là. Un petit peu comme on a beaucoup regretté, par exemple, à l'époque de la montée du nazisme en Allemagne, que la France n'ait pas su accueillir les réfugiés qui fuyaient le nazisme. On les a pas aidés du tout. Donc il y en a qui sont partis aux États-Unis, il y en a qui sont partis en Angleterre ou dans d'autres pays, mais pas en France. Bon, il faut aider ces gens-là et il faut faire savoir qu'ils existent. Comme en Allemagne, il y avait des gens comme Sophie Scholl, La Rose Blanche, etc., qui ont essayé de résister au nazisme. Si on les avait aidés davantage, on n'en serait peut-être pas venu, là on est arrivé. Et donc nous disons, il faut aussi essayer de nouer des liens et renforcer ceux qui, en Israël même, se battent en faveur de la paix.
Daniel ?
Oui, c'est aussi la question des accords justement qu'on passe avec les États. Puisque Alain parlait justement de l'Allemagne, il faut savoir par exemple que les accords qui ont été signés avec Hitler, les fameux accords de Munich, ont contribué énormément à démobiliser, enfin à dissoudre pratiquement les mouvements de résistance. Parce que vis-à-vis du peuple, on a donné une légitimité à un gouvernant qui, au départ, n'aurait pas dû en avoir. Or, actuellement, les accords qui ont été passés avec Israël ont aussi contribué à donner une légitimité à une politique et donc peut-être à affaiblir au moins la parole des forces plus démocratiques et qui n'étaient pas d'accord. Et c'est vrai qu'au niveau de la Ligue, nous, on dit toujours qu'il y a des opposants, il y a des forces démocratiques en Israël et qu'il faut absolument les soutenir et réussir à leur donner la parole.
J'ajouterais que, justement, il y a des responsabilités politiques. Moi, je suis quand même assez sidéré que cette politique-là ait été mise en œuvre avec la caution d'un homme, par exemple, comme Shimon Peres, qui a été prix Nobel de la paix, il faut le rappeler. Donc, on comprend pas. Moi, ce que je dis aussi, c'est que la France, qui assume en ce mois de janvier la présidence du Conseil de sécurité, dont elle est membre permanent, la France a l'influence internationale nécessaire pour s'assurer que les demandes d'enquête se traduisent en actions concrètes, comme l'a demandé le secrétaire général des Nations Unies suite au bombardement. Et donc, la France qui, par l'intermédiaire de son ambassadeur au Conseil de sécurité, rappelait cette semaine encore son attachement à la responsabilité de protéger les populations civiles, ainsi qu'à la lutte contre l'impunité des auteurs des crimes les plus graves auxquels on a assisté, eh bien donc la France doit prendre toutes ses responsabilités, elle doit aller jusqu'au bout et elle doit faire en sorte que les responsabilités soient clairement établies, et qu'il y ait effectivement des sanctions qui soient appliquées, parce qu'il y a manifestement eu violation des conventions relatives à la protection des populations civiles.
On va faire une petite pause musicale avec Natacha Atlas.
Because you're mine.
Magazine Tumulte sur Radio PFM 99.9, libre et sans pub. Dans ce journal de Tumulte, nous recevons Alain et Daniel Pruvot, représentants de la Ligue des droits de l'homme, et il est question avec eux du conflit israélo-palestinien, puisque cette dénomination est consacrée. Alors, on a abordé pas mal de points. Il y a quand même une question qui reste. C'est, l'armée israélienne s'est retirée de Gaza, mais le blocus est toujours là. Et la bande de Gaza, je pense que tout le monde a vu des cartes de la région. La bande de Gaza est limitée par la mer Méditerranée, frontière totale avec Israël, sauf des points de passage avec l'Égypte. Et la bande de Gaza n'est pas reliée à l'autre partie de la Palestine, qui est la Cisjordanie. Alors, une situation quand même qui reste très difficile pour les habitants de Gaza, quand même.
Bien entendu, puisque justement, les gens qui sont dans la bande de Gaza sont très tributaires de l'extérieur, on l'a vu. Donc, à partir du moment où justement s'établit autour de la bande de Gaza ce qu'on pourrait appeler tout un cordon qui empêche justement l'approvisionnement, c'est évident que les Palestiniens sont dans une fâcheuse posture. Ce que je voudrais dire à ce sujet, je voudrais rappeler la tribune libre qui a été publiée il y a d'ailleurs peu de temps par Michel Tubiana, notre président d'honneur, tribune libre qui a été publiée dans le journal Le Monde, et il disait ceci: « Aucune raison de sécurité ne peut justifier l'accaparement des terres palestiniennes, de l'eau et le refus de laisser la Cisjordanie et Gaza se développer. » Il y a longtemps que derrière le discours sécuritaire se cache une volonté d'agrandir le territoire et de convaincre les Palestiniens de s'en aller. C'est un peu ce que je disais tout à l'heure. Au-delà de l'impératif éthique qui interdit de déposséder un peuple de son existence, il en va de la pérennité d'Israël. Ou bien Israël admet l'existence d'un État palestinien pleinement souverain et installé sur la totalité de la Cisjordanie et de Gaza, ou bien la sécurité d'Israël ne durera pas plus longtemps que sa puissance militaire.
D'accord. Alors, on va peut-être aborder la question des actions menées par la Ligue des droits de l'homme. On va en dresser un peu l'éventail. Et puis, on terminera cette émission par les autres actions que mène la Ligue des droits de l'homme sur d'autres sujets. Alors, quels sont les moyens d'intervention utilisés par la Ligue des droits de l'homme? Je sais que la Ligue des droits de l'homme agit dans le cadre aussi du collectif pour une paix juste et durable entre Israéliens et Palestiniens. Quel type d'action vous avez mené, mis à part les manifestations que tout le monde a vues quand même?
Oui, bien sûr. Donc il y a eu des manifestations, Daniel. Il y a eu les appels à manifestation, que ce soit au niveau local, départemental ou régional. Mais il y a surtout eu deux grandes étapes qui nous sont venues de nos instances nationales, à savoir d'abord dès le 7 février, un appel aux consciences qui a été lancé. Et cet appel aux consciences, on a donc demandé à ce que nous le diffusions, ce que nous avons essayé de faire. On a demandé à la presse aussi d'essayer de le relayer, mais ça, c'est pas facile toujours de l'obtenir. Et donc cet appel aux consciences est toujours disponible sur le site de la Ligue des droits de l'homme. Et il exigeait justement un certain nombre de choses qui ont été reprises d'ailleurs par Hélène Flore tout à l'heure dans son interview. Et qui commence à voir un petit peu le jour, notamment le retrait des forces israéliennes. Mais on demandait déjà aussi le retrait des colonies complètement, l'arrêt du blocus. Bon. Depuis, il y a eu une déclaration commune qui a été lancée par la Ligue des droits de l'homme et la Ligue de l'enseignement. Et cette déclaration commune a notamment pour but de veiller à ce que ce conflit israélo-palestinien ne soit pas transposé sur le territoire français. Et donc, cette déclaration commune a d'abord été proposée à des organisations, des syndicats, des partis. Un certain nombre l'ont déjà signée. Et puis, il y a une demande assez forte de la base qui fait qu'aujourd'hui nous est arrivé le message qui consiste à dire que cette déclaration commune peut aussi être signée par des individus. Et en effet, plus nous serons nombreux à la signer, plus nous pourrons essayer de peser même sur notre propre gouvernement. Et donc, ces deux textes sont disponibles sur le site de la Ligue des droits de l'homme. Je vais en donner, c'est très facile, ldh-france.org. Voilà.
Alors la crainte pour la Ligue des droits de l'homme est réelle du risque que des gens instrumentalisent le conflit israélo-palestinien pour attiser, disons, les conflits communautaires.
Écoutez, on a quand même vu à plusieurs reprises déjà des manifestations, des réactions à l'encontre de synagogues, des murs qui ont été tagués, etc. Il y a eu plusieurs manifestations d'antisémitisme. Nous-mêmes, nous intervenons, je dirais, hélas, depuis plusieurs années contre les profanations, par exemple, qui ont lieu dans les cimetières militaires. Bon, ça peut concerner des tombes musulmanes, mais ça peut aussi concerner des tombes israélites. Donc on est très vigilant et je pense que c'est notre responsabilité en tant qu'organisation de défense des droits de l'homme d'être là et de faire en sorte qu'il n'y ait pas de dérapage.
Oui, le président de la communauté juive, M. Komar à Lille, disait lui-même que non seulement il y avait eu ces tags antisémites sur la synagogue, mais que quand il se promène dans les rues de Lille, il se fait actuellement agresser personnellement, donc insulté. Donc on voit bien quand même qu'il y a une recrudescence d'antisémitisme.
Dans l'autre sens, oui peut-être.
Non, j'allais dire justement, il faut absolument éviter ce qu'on appelle la communautarisation et... J'étais au dernier comité central de la Ligue des droits de l'homme à Paris récemment, et nous avons longuement débattu de cette question. Notre souci était, au plan national aussi, celui-là, éviter cette communautarisation.
Oui, on dit que ce conflit n'est ni religieux, ni un conflit de civilisation, mais c'est bien un conflit de politique.
D'accord. Alors, on a vu en France quand même des grandes manifestations, des manifestations importantes, massives, que ce soit au niveau des grandes villes, mais aussi en province. Bon, à Lille, il y a eu quand même de très grosses manifestations, 15 000 participants, je pense à la dernière, 10-15 000. Est-ce qu'on va continuer à avoir ce type de manifestation? Est-ce que c'est de votre volonté aussi de faire en sorte qu'il y ait une pression de l'opinion publique qui s'exerce, y compris dans la rue?
Écoutez, je n'en sais rien, je ne dis pas dans le marc de café. Bon, on ne va pas tirer non plus des plans sur la comète. Bon, ce qui est sûr, c'est qu'il y a eu une mobilisation, je dirais, exceptionnelle. Hein, nous étions présents dans la manifestation lilloise. Bon, dire s'il y avait 10 ou 15 000 personnes, c'est bien difficile à dire. Ce qui est sûr, c'est qu'il y avait un monde fou dans les rues de Lille. Et moi, personnellement, je n'avais pas vu de telles manifestations, et sur une question comme celle-là en particulier, depuis bien longtemps. Ça m'a rappelé les manifestations auxquelles j'avais participé quand j'étais beaucoup plus jeune contre la guerre au Vietnam, qui drainait aussi beaucoup de monde. Mais sinon, c'était vraiment une manifestation. Enfin, les manifestations étaient des manifestations impressionnantes, hein, au moins dans les grandes villes, c'est vrai. Donc, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Ben, je pense que les gens qui se sont mobilisés vont rester mobilisés. Ça ne veut pas dire forcément qu'ils vont tous redescendre tout de suite dans la rue. Mais si la situation l'exige, je pense qu'ils le feront. Ça dépend beaucoup de ce qui va se passer. Est-ce que justement nos dirigeants vont donner suite à la demande qui leur est adressée? Je faisais allusion à ce communiqué qui date d'aujourd'hui des différentes associations de défense des droits de l'homme pour le respect et pour la condamnation aussi des criminels de guerre. Bon, ça sera un test. Est-ce que vraiment la paix va durer ou est-ce que ça n'est qu'une courte parenthèse? C'est tout ça qui est en filigrane.
Oui, moi je ne pense pas qu'il faille prendre l'habitude de manifester comme si on allait faire ça toutes les semaines. Je pense qu'il faut toujours analyser une situation et si on décide de nouveau d'une manifestation, il faudra justifier et pas forcément avoir exactement les mêmes mots d'ordre ni réclamer la même chose qu'il y a 3 semaines parce que toute situation évolue.
Mais quand même, il y a une chose sur laquelle on ne doit pas transiger, qui est la garantie même de la paix durable, c'est le respect des droits du peuple palestinien. Et je crois que là-dessus, il faut pas baisser les bras, il faut pas désarmer. Pacifiquement, bien entendu, mon expression n'est peut-être pas des plus heureuses. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'on a aussi une responsabilité en tant que manifestant et qu'on ne peut pas cautionner des appels, par exemple, qui sont des appels utilisant des slogans. Par exemple, j'ai entendu parler de propagande impériale sioniste des enfants de Goebbels. On peut pas relayer ça. Quand on voit dans certaines manifestations l'étoile de David égale une croix gammée, on ne peut pas non plus le cautionner parce que c'est même contre-productif de dire ça quand on sait que justement les ancêtres des Israéliens d'aujourd'hui ont souffert ce qu'ils ont souffert avec la Shoah. Et puis c'est une contre-vérité manifeste. Mais pour autant, on comprend mal qu'un peuple qui a connu ça dans le passé serre les rangs derrière ses dirigeants pour mener la politique qui a été menée là.
On va terminer cette émission en vous demandant un peu les autres activités, quelles sont les autres activités de la Ligue des droits de l'homme, mais quand même pour, même si vous en êtes démarqué, quand même donner l'information qu'il y a eu à Arras des manifestations, trois manifestations oui. Locales auxquelles vous avez aussi participé, mmh. et qu'il y en aura une à l'initiative du comité Libérez-les vendredi prochain à 18h30 devant la gare d'Arras. Alors, pour terminer, donc, vos autres activités
C'est-à-dire Daniel. Que nos activités sont forcément très, très variées parce que comme on est généraliste des droits de l'homme, tout ce qui est atteinte aux droits de l'homme nous concerne. Donc, je vais dire que, on s'occupe aussi des questions d'Afghanistan puisqu'il y a beaucoup d'Afghans qui font partie des migrants dans le Calaisie, dans le Dunkerquois. Donc, c'est aussi une question qui nous préoccupe beaucoup. Et on a une section là-bas qui est sur le terrain. Bon. On a aussi, tout ce qui se passe en France. Et donc on est très mobilisés, notamment par rapport au fichage et aux atteintes portées à nos libertés individuelles. D'ailleurs, on a fait venir un conférencier en décembre et on n'est pas du tout content de ce qui va se passer parce qu'on sait que d'autres fichiers bien plus graves sont en préparation. Donc là aussi, il va nous falloir mobiliser. Or, on a un peu l'impression qu'actuellement, du fait qu'on a dit le fichier Edwige est retiré, beaucoup de gens s'imaginent qu'on peut dormir tranquille et que tout va bien. Non, c'était peut-être simplement un ballon d'essai.
D'autant plus
simplement le Edwige 1.0. Voilà, il y a un petit frère, une petite sœur, il y en a d'autres même qui vont arriver.
Et puis il y a d'autres fichiers qui se mettent en place, par exemple dans l'éducation nationale.
Oui, justement. Donc il y a le fichier base élève. Alors c'est vrai que là, il faut dire, quand on est content, faut le dire aussi, la mobilisation a payé et qu'on a réussi dans ce fichier base élève à faire enlever un certain nombre de données qui étaient vraiment, parfaitement scandaleuses. Donc ce qui prouve que si on se mobilise et qu'on se mobilise encore plus, on peut faire reculer ce genre de mesures et donc progresser les libertés dans notre pays. Donc ça, c'est un des sujets qu'on va avoir. Et puis, on a bien sûr les sans-papiers, dont la politique actuelle a fait un peu une cible. Et donc, c'est vrai que vouloir avoir des quotas et vouloir en renvoyer systématiquement, quelles que soient les situations familiales, ça amène les gens à devoir vivre dans la clandestinité, certes, mais aussi ceux qui veulent essayer de s'en sortir sont souvent pénalisés alors qu'ils font une démarche de citoyen.
Je vais poser une question plus particulièrement destinée à Alain Prévost parce que vous êtes président de la section des Nimbeaumont,
oui, tout
de la Ligue
à fait,
des droits
oui,
de l'homme, ville dans laquelle le Front National possède une implantation quand même forte. Mmh. Est-ce qu'elle se maintient avec la crise nationale? Je ne sais pas s'il faut mettre des guillemets ou pas à ce mot crise du Front National. Est-ce que cette implantation se maintient et comment vous essayez de l'affaiblir?
Bon, est-ce qu'elle se maintient? Bon, ce que je peux dire là-dessus, c'est que, premièrement, on se félicite quand même d'avoir été l'organisation qui a été à la pointe du combat, en ce sens que nous avons réussi à fédérer les forces nécessaires pour faire obstacle à la prise du pouvoir, à la conquête de la municipalité par le Front National à Hénin-Beaumont. Puisque c'est grâce aux initiatives prises par la Ligue des droits de l'homme que s'était constitué justement un front, une alliance, l'union de la gauche en fait, autour de Gérard d'Allongeville et de Marie-Noëlle Lindemann. Depuis, il y a eu un certain nombre de péripéties au niveau municipal. Il y a eu également à nouveau des tracts très virulents signés de Monsieur Steve Briouat et de Madame Marine Le Pen. À partir de là, comment la population et les Ignois réagissent-ils? Ce qui est sûr, c'est que une partie, en tout cas, de la population vit mal l'augmentation, on va dire, des impôts, et que donc c'est facile aussi pour des démagogues d'exploiter une situation comme celle-là. ça, c'est porteur. Dans le même temps, on a vu comment ça se passait au Front National avec la division autour entre Marine Le Pen et Karl Lang en particulier. Donc ça ne fait pas ça n'apparaît pas comme une force très porteuse, d'autant plus que le Front National est en recul partout dans le pays. Même si un certain nombre de ces idées ou de ces thèmes favoris ont été repris justement par dans le cadre de la politique menée par Nicolas Sarkozy, pour autant on peut pas non plus simplifier les choses et mettre un signe égal, mais enfin c'est vrai qu'il a quand même, avec notamment la mise en place du ministère de l'immigration, rien que le titre. Donc, difficile de répondre très précisément à cette question, mais nous restons extrêmement vigilants en tout cas.
Voilà, nous recevions Alain et Daniel Pruvot, représentants de la Ligue des droits de l'homme. À bientôt.
À bientôt. Très volontiers. Merci de nous avoir invités.
Fin du magazine Tumulte. Tumulte, c'est tous les mardis de 20h à 21h30. Rediffusion le mercredi à 15h et à 18h30. Et sur le net, radiopfm.com. À la semaine prochaine. La semaine prochaine, nous retrouverons Laurent Cordonnier, économiste et enseignant à l'Université Lille 1. Et nous aurons aussi le poème provisoire de Sylvie Neve.